interview avec Christophe Billard cette semaine sur Art District Radio. Christophe rencontre l'actrice Charlotte Lebon à l'occasion de la sortie en salle de son premier long-métrage, Falcon Lake. Une interview réalisée dans les locaux de l'imprimerie Idem, une des plus vieilles imprimeries parisiennes, qui a vu passer Picasso et David Lynch et bien d'autres. Dans ce lieu mythique du Montparnasse artistique, Charlotte Lebon, qui est aussi dessinatrice, y expose des lithographies. Conversation du cinéma au dessin, du dessin au cinéma, en bonne compagnie.
Bonjour Charlotte.
Salut Christophe.
Je sais que tu as un emploi du temps très chargé actuellement, car il est dual, avec la sortie nationale en France à partir du 7 décembre de Falcon Lake, ton premier long métrage.
Oui.
Et puis ta deuxième expo personnelle à Item,
oui,
à partir du 3 décembre.
Exact.
On va faire 5 questions assez rapides.
Ok.
Une première question, on va commencer par Falcon Lake.
Oui.
Une histoire d'amour, de fantôme, oui, sur les lacs du Québec, tu m'as dit quelque,
oui,
temps. C'est un retour sur tes terres, c'est un moment de nostalgie, de mélancolie, le lac du Québec.
C'est un mélange de plein de choses, en fait. Tout d'abord, il faut dire que mon film est librement adapté d'une BD d'un auteur qui s'appelle Bastien Vivès. La BD s'appelle Une sœur. Et initialement, cette BD se passe sur le bord de la mer en Bretagne. Et en fait, moi, on m'avait toujours donné le conseil de... Pour un premier long métrage, il valait toujours mieux écrire sur quelque chose qu'on connaît. Donc, dès que je l'ai lu et que j'ai ressenti l'envie de l'adapter, pour moi, c'était une évidence que je devais transposer le récit sur le bord des lacs au Québec, parce que ça a vraiment été le théâtre de mon adolescence. Et c'est une histoire d'éveil sexuel entre un jeune garçon de 13 ans et une fille de 16 ans. Et donc pour moi, oui, c'était une évidence que je devais justement d'abord me rassurer, parce que ce sont des paysages que je connais par cœur, mmh, et aussi parce qu'ils sont source d'inspiration depuis très très longtemps. Donc l'idée de les filmer, ça m'excitait beaucoup.
Et là, c'est super, parce que là, tu as déjà répondu à ma deuxième question.
On adore.
Et tes acteurs, puisque tu as de jeunes acteurs, tu les as choisis comment? C'est des acteurs qui sont québécois, canadiens, internationaux?
Non, c'est l'histoire d'un jeune garçon français qui vient avec sa famille, donc il habite en France avec sa famille, il vient passer l'été sur le bord d'un lac chez une des copines de sa mère, qui est québécoise, et donc la fille de cette copine est également québécoise, donc il y a une espèce de mélange des cultures comme ça qui me plaît, mais j'en joue jamais dans le film d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout de jouer des différences de culture entre le Québec et la France, parce que ça fait quand même 10 ans que j'habite ici et qu'on a souvent pointé mon accent et ça me saoule, et donc ça m'intéressait pas du tout. Mais bref, pour ce qui est des acteurs, Joseph, celui qui incarne mon personnage principal, je l'ai vu dans un film de Louis Garrel qui s'appelle L'homme fidèle. Et c'était vraiment, c'était une évidence, c'est-à-dire que j'ai eu un gigantesque coup de cœur. Je me suis même dit, merde, s'il n'accepte pas de faire mon film, je vais vraiment être niquée, parce que je ne peux pas imaginer personne d'autre. C'était lui, c'était sûr.
C'était
une évidence. Et ça a été un peu long, on a bataillé un peu, puisqu'au début, ses parents n'étaient pas hyper chauds à l'idée qu'il retourne dans un film, parce qu'il semblait dire que ça pouvait le déconcentrer de ses études et tout ça. La première année, ils ont refusé. Moi, j'ai réécrit de mon côté, et on les a relancés, et ils ont fini par accepter. Je sais aussi que Joseph a fini par lire le scénario, qu'il a beaucoup aimé. Il connaissait déjà la BD, et je pense qu'il s'est aussi beaucoup, beaucoup identifié au personnage principal.
D'accord.
Du film. Et Sarah, je l'ai trouvée à l'issue d'un très long casting au Québec, parce qu'il fallait que ce personnage soit québécois. Et j'ai vu une douzaine d'actrices québécoises. Il y en avait plein qui étaient très, très douées, mais je n'avais pas de coup de cœur. Et après, j'ai lancé un casting sauvage via les réseaux sociaux. Où je demandais à des filles entre 15 et 19 ans de m'envoyer une vidéo d'elles qui me racontaient un de leurs rêves.
D'accord.
Et son rêve à elle était génial. Et ensuite, je l'ai rencontrée. Et puis voilà.
Et le film se fait.
Après, ça a été long. Hein.
Ça a été long, bien sûr.
C'est pas rigolo. Hein. C'est pas genre, j'ai trouvé mes acteurs, on peut y aller.
Donc là, tu es scénariste, productrice, quel rôle?
Alors, je suis devenue productrice exécutive, c'est-à-dire qu'à un moment dans le film, comme c'est un film à petit budget, et qu'on était avec une équipe qui était très verte, c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça pour la première fois, en fait. Et du coup, on a eu des petits soucis et il y a eu des dépassements. Et donc, je dirais qu'à la mi-tournage, on m'a demandé de mettre la moitié de mon salaire dans mon film.
D'accord.
Et à partir de ce moment-là, tu deviens productrice exécutive. Et donc ça, je suis scénariste, évidemment, et j'ai réalisé. Ouais.
C'est ton premier long métrage, le deuxième film après Judith Hotel en 2018,
ouais.
Donc sujet totalement différent.
Ouais.
À peine terminé, Falcon Lake récolte déjà de nombreux prix dans le monde entier, puisque tu vas parler de Vancouver, de Brooklyn, de Los Cabos au Mexique,
ouais.
Deauville, Chicago, nominé à Cannes et pour le prix Louis de Luc. Qu'est-ce que ça fait d'être à peine sorti et à peine le premier film réalisé sous les feux de la rampe et des critiques ?
Je sais pas trop, parce que c'est mon premier. Donc, en fait, j'arrive pas trop à... C'est un peu inespéré, en fait, tout ce qui se passe, évidemment. Après, moi, j'ai juste essayé de faire le film le plus sincère possible. Je l'ai vraiment fait avec mon cœur. C'est un film qui est super intime et qui est très personnel. Je pense que quand on fait une œuvre qui est très personnelle, du moment qu'on commence à le partager avec les gens, on se dit, merde, s'ils l'aiment pas, ils nous aiment pas, nous. Il y a un truc où on finit par le prendre,
oui,
un peu personnel.
Mais la sincérité, finalement, c'est ce qui paye à la fin, je pense.
En tout cas, pour le moment, en fait, justement, à chaque fois que j'ai reçu des prix ou simplement que je parle à des gens qui l'ont vu et qui ont été émus par le film, je comprends un peu plus pourquoi je fais ce métier, quoi. Il y a un truc qui...
Parce que tout ce que tu as fait, puisque tu as quand même une carrière, malgré ton jeune âge, tu as quand même une carrière très longue et très diversifiée, après avoir été mannequin, dessinatrice, artiste plasticienne, on va dire de manière générale, animatrice à la télévision, je ne dirai pas où et quand, mais on se rappelle tous de toi sur les chaînes, comédienne et actrice, et maintenant tu es passée de l'autre côté de la caméra.
Oui.
C'était un choix, c'était inévitable. Parce que j'ai entendu dire dans une interview que réaliser un film est probablement le plus beau métier du monde qui soit.
Oui, oui. Je pense que c'était inévitable. Après, je pense que je l'ai ignoré assez longtemps parce que j'étais pas vraiment ce type d'enfant, par exemple, qui savait exactement ce qu'elle voulait faire dès son plus jeune âge et qui filmait ses amis, des trucs comme ça. J'étais pas du tout là-dedans. Après, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours, évidemment, écouté cette petite voix intérieure qui me demandait de créer. Et donc j'ai toujours voulu raconter des histoires à travers les images, mais je pense qu'effectivement le fait d'avoir été actrice pendant 10 ans a fait en sorte que j'ai été aussi confrontée à plein de différentes façons de travailler de réalisateur, et puis ça a vraiment été mon école de réalisation. Donc après c'est quelque chose qui était latent et qui a commencé à grandir, et à un moment j'avais pas le choix, quoi. C'était vraiment c'était une nécessité, il fallait absolument que je le fasse.
Donc une nécessité de réaliser un film, au préalable de tourner dans des films, et au tout début de ta carrière, tu as dit donc tu as étudié les arts plastiques.
Ouais, exact.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Charlotte effectivement est dessinatrice peintre, qu'elle travaille aussi la lithographie, pas encore la sculpture.
Si, un petit peu, oui.
Un petit peu.
Ouais.
Alors, elle touche à
mais
tout.
Après je veux vraiment pas prétendre que je suis une grande sculptrice, mais j'adore ça. J'ai fait une expo où j'avais sculpté des petites dents, j'avais aussi sculpté un cornichon, une pêche, des trucs comme ça en porcelaine. Mais je commence, quoi.
Donc en matière d'inspiration pour les arts visuels, est-ce qu'il y a des sujets, des émotions que tu transmets ou que tu retranscris plus facilement dans un film plutôt que dans une peinture ou un dessin, ou est-ce... l'inverse? Il y a une émotion ou un sujet que tu vas davantage faire transparaître dans un film et pas dans une litho ou une peinture?
Alors, je sais pas. Je sais que c'est assez difficile de dire, d'expliquer quelles sont nos sources d'inspiration, d'où est-ce que ça provient, tout ça. Je pense que je vais probablement jamais exactement le savoir. Après, je pense que c'est des choses qui... je suis quand même, je pense, inspirée beaucoup par le monde du rêve, l'inconscient... Ou des émotions en fait qui parfois sont juste complètement vagues et qui tout d'un coup se matérialisent comme une image dans ma tête, et ensuite j'ai juste pas le choix de la transposer, de le mettre sur papier ou dans une histoire écrite, mais c'est assez vague en fait. Après je pense effectivement que je suis remplie de mélancolie et de nostalgie, non pas tant de nostalgie, c'est pas vrai, vraiment plus de mélancolie.
De la mélancolie,
c'est pas la même chose.
Tout à fait, la mélancolie, ouais. Au sens allemand, par exemple le Sehnsucht.
C'est quoi le Sehnsucht?
Le Sehnsucht dont parlait Goethe, ouais. C'est lorsqu'il allait en Italie à une époque, fin du XVIIe, XVIIIe siècle, et qu'il voyageait en Italie,
ouais.
Et lorsqu'il revenait en Allemagne, dans ces pays froids, nuageux, ou en tout cas le nord de l'Allemagne,
ouais.
Il avait le Sehnsucht nach Italien, qui était la nostalgie, la mélancolie de l'Italie, avec le désir fort d'y retourner,
ouais.
Mais le souvenir souvenir en même temps très prégnant que l'Italie, le soleil, les parfums, les cyprès et tout étaient dans sa tête. C'est un sentiment un peu mélangé. On est triste de l'avoir quitté, mais on a envie d'y retourner.
Je pense que oui, il y a de ça. Après, pour moi, la mélancolie, je pense que c'est un mélange de toutes sortes de choses, mais pour moi, c'est vraiment un truc qui est parfaitement à cheval entre la tristesse et la joie. Donc, je pense que ça se rapproche.
C'est exactement ça. Et les Japonais utilisent un mot qui s'appelle nagori.
Nagori.
Le nagori, c'est le sentiment mixte, effectivement, d'éprouver une tristesse d'avoir quitté quelqu'un ou un endroit ou une situation, et en même temps, d'avoir envie d'y retourner. Ça fait écho au cycle de la vie, qui est linéaire, et au cycle des saisons qui se répètent.
D'accord.
Donc, on parle du nagori de l'été, quand l'été s'étiole au mois de septembre, notamment dans les paysages du Canada.
Ouais.
Et on voit ces arbres qui commencent à rougir ou être jaunes et oranges. Et on repense à cet été qui était fabuleux. Puis on se dit déjà que l'année prochaine, on est très content de pouvoir le revivre.
Il y a un peu de ça, effectivement, dans mon film aussi. Parce que comme au Québec, au-delà du fait que c'est quand même une première histoire d'amour, qu'ils n'habitent pas dans le même pays, qu'il y a aussi quelque chose de très, très vertigineux aussi dans aussi ce concept des premiers émois et le fait de désirer quelqu'un pour la première fois et tout ça. Je pense que... il y a énormément de mélancolie là-dedans parce que c'est très très beau, mais c'est aussi à la fois très effrayant. Mais il y a aussi effectivement ce truc des saisons aussi au Québec que je voulais vraiment mettre à l'avant, c'est-à-dire qu'on a quand même les quatre saisons de manière hyper violente, quoi. C'est-à-dire qu'elles s'assument, mais vraiment complètement. Et c'est vrai qu'il y a toujours une espèce de mélancolie qui nous accompagne pendant tout l'été parce qu'on sait que ça va se terminer.
Et que l'hiver va être long, dur,
exact.
Et froid.
Ouais. Et je pense que ce sentiment-là plane pendant tout le film aussi.
Donc, elle était au chaud dans l'atelier à Paris.
Ouais.
Si je faisais une comparaison entre le cinéma et la lithographie, c'est un travail d'équipe où on a un artiste, un chromiste ou une chromiste, et des artisans, des imprimeurs.
Ouais.
Au cinéma, tu as ton équipe. Est-ce que tu as besoin, lors de ton travail ou dans des sources d'inspiration, de recréer une équipe autour de toi, une espèce d'esprit de famille, hein?
Non, pas nécessairement. Par exemple, quand je fais des huiles, je suis tout seul avec mon papier. Mais ce qui est bien, en revanche, c'est qu'avec la lithographie, un peu comme à l'instar des films, c'est-à-dire au début, on commence seul. On fait son dessin seul et ensuite ça devient un truc collectif.
C'est collectif.
Et ensuite on redevient seul
avec le produit fini.
Voilà. Exact. Et c'est vrai qu'effectivement la litho ça ressemble un peu à ça parce que moi je vais dessiner, hein, je vais évidemment faire ce que je veux sur la pierre, mais je pourrais jamais l'imprimer seul, c'est impossible. Même encore aujourd'hui quand je la regarde imprimer, j'ai l'impression qu'il m'y tonne. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais ça fonctionne.
C'est une espèce de cuisine très élaborée.
Oui, mais ça reste magique, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que j'arrête.
Quand tu vois les feuilles sortir, et tu vois ta lithographie qui sort, tu dis que c'est à toi, c'est ton bébé.
C'est mon petit bébé.
Voilà.
Et j'aime bien aussi ce que j'adore de la lithographie, c'est qu'ensuite le support sur lequel on a dessiné, il disparaît. C'est vraiment...
La pierre disparaît, sauf si on garde le dessin. Toi, tu es fan, tu demandes...
Si on garde le dessin, c'est-à-dire...
Le dessin sur la pierre, on peut le garder, la pierre, telle qu'elle est.
Ouais, mais c'était Picasso, quoi. Moi, c'est pas possible, je pars du là encore. Moi, on est fast. Allez, bon, vas-y.
Parlons pas de Picasso, on va parler de ta première... Okay. Ta deuxième exposition personnelle, pardon, à Montparnasse. Tu as déjà fait des expositions, fait partie prenante d'expositions collectives, alors de groupes, mais on va dire de petits groupes, puisque tu as exposé avec, entre autres, David Lynch, Jean-Michel Alberola, Philippe Cogné, Izumi Kato. Les thématiques que l'on va retrouver dans tes peintures, tes huiles et les lithos, c'est directement inspiré de ton film ou c'est d'autres thématiques?
C'est quand même directement inspiré de mon film. C'est-à-dire que, après, je pense que c'est des thématiques qui m'accompagnent depuis quelques années maintenant, effectivement, mon film a été inspiré de ça d'abord. Mais là, j'ai l'impression que pour moi, cette expo, c'était vraiment une façon de pouvoir... Parce que de se défaire d'un film, il y a quelque chose d'assez violent aussi là-dedans, parce que ça fait quand même depuis 4 ans que je le porte. Là, ça fait depuis le mois de mai, en mai dernier à Cannes, que je le présente et que je le défends. Et puis là, je vais vraiment, avec cette sortie nationale, je vais vraiment devoir le laisser aller, en fait.
L'œuvre va te quitter.
L'œuvre va me quitter complètement, elle ne m'appartiendra plus.
La litho, tu penses, et les peintures vont continuer d'accompagner cette œuvre, entre guillemets?
Je ne sais pas si c'est ça ou si ça venait vraiment juste besoin d'une espèce de nécessité de me vider complètement de cette histoire. Je pense que c'était une façon aussi pour moi, peut-être aussi d'alléger un peu l'exercice promotionnel et de pas juste en faire un espèce de truc de marketing où je vais juste parler de mon film et je le vends. J'en parle d'une autre façon à travers des images aussi, ça me plaît. Donc, parce que c'est quand même c'est un peu difficile aussi parfois l'exercice promotionnel parce qu'on doit intellectualiser toujours le film et parfois c'est fatigant. Et je trouve que parfois des images parlent beaucoup plus.
Exactement, une image parle beaucoup plus et plus directement. Elle touche peut-être des publics différents.
Exactement, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette expo.
Alors, une dernière question, parce que le temps tourne et je ne veux pas te retenir. Je vois que tes pinceaux sont prêts à l'attaque. Qu'est-ce que tu as comme musique dans ton iPhone actuellement ?
Alors, j'écoute beaucoup... pendant cette expo, j'ai beaucoup écouté Nick Hakim, qui est vraiment super. J'ai écouté une artiste géniale qui s'appelle Aldous Harding. Je les écrirai ensuite.
Oui.
Et puis, qui d'autre j'ai écouté ? J'ai écouté Pink Floyd aussi. C'est pas mal.
J'ai entendu un moment de Depeche Mode.
Oui, Depeche Mode, je pense que c'est une de mes chansons préférées. Enjoy the Silence.
Voilà, Enjoy the Silence.
Ouais, c'est une de mes chansons préférées, c'est clair. Mais je dois être dans un mood spécial pour pouvoir l'écouter et qu'elle puisse résonner de manière satisfaisante. Là, je suis pas dans ce mood-là.
Très bien. Ouais. Et sur ta table de nuit ou dans ton sac ou avec toi, un livre particulier, un titre qui t'a marqué ces derniers temps ou que tu lis actuellement ?
Alors, j'ai pas commencé à le lire, mais j'ai très envie de le faire. Je suis allée voir l'expo sur Fuseli, Henri Fuseli, parce qu'il a une toile qui m'obsède un peu et qui d'ailleurs m'inspire beaucoup pour mon deuxième film là, qui s'appelle Le Cauchemar. Et en fait, Fuseli était aussi énormément inspiré par le théâtre et notamment Shakespeare. Et en fait, il a fait aussi des toiles sur les Trois Sorcières de Macbeth et tout ça. Et en fait, j'ai jamais lu Macbeth, donc j'ai acheté Macbeth et là, je vais commencer à le lire bientôt.
Bon, alors on va te laisser à tes toiles, tes pinceaux, à ton chevalet.
Oui.
On va te remercier pour cette interview. Le film Falcon Lake sort en France le 7 décembre.
Oui.
Et ton exposition Item rue de Montparnasse dans le 14e commence le 3 décembre.
Exact. Et elle s'appelle Falcon Lake Tales.
Merci beaucoup Charlotte.
Je t'en prie.
À bientôt.
C'était Art Interview avec Christophe Billard, à retrouver en podcast sur le site d'Art District Radio.